Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis, chers auditeurs de Radio Présence, nous essayons de désamorcer la haine. Et nous avions entendu deux histoires que je vous contais lors de notre dernière rencontre et pour lesquelles il faut envoyer de l'amour et en tout cas se déprendre de la haine qui nous étouffe et qui nous empêche de vivre. Et la question qui peut se poser, si la vengeance nous est prohibée pour un chrétien, et si même humainement elle n'est pas bonne, est-il possible de se permettre certaines revanches? Un livre autobiographique d'un Kabyle dit comment il a essayé d'harmoniser sa berbérité native avec la francité qu'il a voulu, à la fois donc berbère et français. Il a réussi puisque après une carrière d'avocat, il a pu devenir conseiller d'État. Et pour en arriver là, il a fallu subir de véritables pluies d'avanie qu'il n'est pas difficile d'imaginer. Et en son livre, cet Augustin Ibazizen, le livre s'appelle « Le pont de Berecmouche ou le bon de Milan », un chapitre est consacré aux revanches secrètes où il institue une distinction entre vengeance et revanche. Et voici ce qu'il écrit, par exemple. Si mes ripostes au collège ont été au sens exact du terme de véritable vengeance, parce que directe et prompte, d'autres parce que différer constitue plutôt des revanches, avec toutes les nuances qui séparent ces deux formes de réaction. Il serait intéressant de se livrer à une analyse approfondie de leurs différences, la vengeance impliquant assez souvent des violences, tandis que la revanche peut n'en comporter aucune. Elle apparaît alors comme une victoire inversée, un chassé-croisé entre un vainqueur et un vaincu, un humiliant et son humilié, chacun d'eux prenant un jour proche ou lointain avantage sur l'autre. La vengeance se traduit souvent par des éclats, la revanche peut rester discrète, ignorée de ceux qui l'ont provoquée et n'être qu'un retour d'avantage par rapport à des faits préjudiciables subis auparavant. Et on peut reconnaître que certaines revanches de bon goût sont parfois bienvenues, à condition qu'elles ne soient pas malignes. Et l'auteur que je cite en compte une, « Il fut rebuté enfant pour s'être trop approché de la piste de bal des officiers. » Et 18 ans plus tard, avocat et lui-même officier de réserve, il se trouvait au même bal. Avisant un enfant tout fasciné, semblable à celui qu'il avait été, il le fit inviter au bar par sa cavalière et lui offrit une limonade que le jeune garçon but en écarquillant les yeux autour de lui. Il faut de la générosité et de l'humour pour faire ainsi bonne mesure d'avanie ancienne. Cette revanche n'était qu'une façon élégante de vaincre le mal et délicate, de vaincre le mal par le bien. Il n'est donc pas chrétien de se réserver un temps pour la vengeance, ni d'avoir l'esprit revanchard. Et saint Paul rappelle aux Romains les aphorismes du livre des Proverbes, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. C'est amasser des charbons sur sa tête et le Seigneur te le revaudra. » Il ne faudrait pas se méprendre non plus sur le sens de ces paroles, comme si, en laissant à Dieu la vengeance, on était sûr de la savoir parfaite. Je ne me venge pas, mais je laisse à Dieu le soin de le faire avec la toute-puissance qui est la sienne. Et vouloir faire du bien à autrui pour faire de son crâne un encensoir, on met des charbons ardents, est aux antipodes de l'esprit évangélique. La vengeance serait peut-être retardée, mais pour être plus affinée. Ce n'est pas l'esprit évangélique. David ne demande pas à Dieu de faire du mal à Saül, il implore seulement d'être délivré de sa main. « Le Seigneur, dit-il à son persécuteur, à Saül, Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main contre celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Et David aurait pu voir, dans les circonstances qui mettent l'ancien roi sous sa main et à sa merci, des signes providentiels. Son sens de Dieu et de l'homme est trop affiné pour qu'il tire une telle conclusion des événements. Il ajoute, « De même que ta vie a compté beaucoup à mes yeux en ce jour, ainsi ma vie comptera beaucoup au regard du Seigneur et il me délivrera de toute angoisse. » Une telle déclaration nous permet une nouvelle fois de comprendre l'attachement de Dieu pour son serviteur David. Malgré le contexte dramatique, les yeux de David considèrent la réalité sous l'angle où Dieu lui-même la voit. Son attention s'attache toujours au regard divin. C'est en vertu de sa foi que la vie de son ennemi lui apparaît sacrée. Il sait en effet, en vertu de cette même foi, que sa propre vie est ensachée dans le sachet de vie, selon l'expression du chapitre 25e que nous avons cité naguère. Et cela d'autant plus qu'il a su respecter celle d'autrui. David est ensaché dans le sachet de Dieu, d'autant qu'il a respecté l'ensachement, si je puis dire, de la vie d'autrui. Son attitude positive lui vaudra la protection de Dieu. Ainsi peut se vérifier la loi selon laquelle le mal engendre le mal et le bien engendre le bien. Qui fait le bien ou refuse de se laisser emporter par le torrent du mal, récolte le bien d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas immédiat. Il a en outre, le témoignage de sa conscience qui lui permet de jouir de la paix du cœur et de la répandre.